Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Le Dieu de vérité que les hommes nomment de divers noms, mais qui est l'un unique et le même, qui est celui qui est, et en tout ce qui est vrai, et dans l'union de ceux qui s'unissent, et qui est dans la hauteur, dans la profondeur, dans l'infini des cieux et dans l'ombre du cœur. Nous le louons, le Seigneur de la vie, de ceux qui nous exaucent, puisque le bonheur est un exaucement. Et qu'en nous adressant ensemble à lui, nous élevons notre vouloir, nous épurons notre désir et nous nous accordons. La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu pour ce moment de méditation et de culte. Dans l'univers immense, l'homme a souvent tremblé. Au jour de la souffrance, il a souvent pleuré. Au cœur d'un grand silence, une aube s'est levée. L'Évangile nous redit que la lumière soit. Pour son indépendance, l'homme a souvent lutté sans trouver référence à la vraie liberté. Au cœur d'un grand silence, une aube s'est levée. L'Évangile nous redit que la lumière soit. Pour garder confiance, l'homme a souvent chanté. Tant de chants d'espérance seront-ils exaucés? Au cœur d'un grand silence, une aube s'est levée. L'Évangile nous redit « Que la lumière soit ». Oui, au bout de la route, il n'y a pas la route, mais le terme du pèlerinage. Au bout de l'ascension, il n'y a pas l'ascension, mais le sommet. Au bout de la nuit, il n'y a pas la nuit, mais l'aurore. Au bout de l'hiver, il n'y a pas l'hiver, mais le printemps. Au bout de la mort, il n'y a pas la mort, mais la vie. Au bout du désespoir, il n'y a pas le désespoir, mais l'espérance. Et nous écoutons l'adaptation de ce psaume de l'Ancien Testament, psaume 103, dans une traduction moderne. « Que ma vie tout entière chante ta louange. Tu es ma vie, tu es la paix sur mes erreurs. Tu es la force dans l'épreuve et dans la lutte contre la mort, source de miséricorde. Que ma vie tout entière chante ta louange, ô Éternel, tu es présent. » Déjà dans l'histoire de l'ancien Israël et dans la lutte contre toute oppression et dans nos vies désorientées. Que ma vie tout entière chante ta louange. Entre moi et ce qui m'écraserait, tu mets l'infini de ton amour entre moi et toi. Comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. Que ma vie tout entière chante ta louange. À cause de toi, je mesure l'éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes, mais par ton amour, je l'assume. Oui, que ma vie tout entière chante, ô Éternel, ta louange. Avec plusieurs témoins de la Bible, nous confessons notre foi. Avec Moïse, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus. Avec David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Avec Ésaïe, le prophète, mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Amen.
Écoutons
les textes bibliques que je vous propose pour notre méditation. D'abord, 1 Jean 2, versets 15 à 27. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient, non pas du Père, mais vient du monde. Et puis, ce verset beaucoup plus connu, mais qui donne une perspective apparemment inverse à ce que nous venons d'entendre dans 1 Jean. Il s'agit de ce verset dans l'Évangile, pas plus l'Épître, mais l'Évangile, au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et toujours dans l'Évangile de Jean, un peu plus loin, au chapitre 10, les versets 11 à 16, parole de Jésus. « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas le berger, voit venir le loup et abandonne les brebis. Et le loup les ravit et les disperse. Je suis le bon berger. » Je connais mes brebis et elles me connaissent, comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Et j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, etc. Fin de citation. Si vous faites un sondage d'opinion chez les protestants d'un village ou d'un quartier, d'une ville, je pense plutôt avant les années 2020, car depuis, je suis à la retraite, donc je suis un peu moins au courant. Et puis, les choses évoluent tellement vite actuellement, tellement vite et pas toujours dans le bon sens, que je ne sais pas trop ce qu'aujourd'hui mes co-religionnaires répondraient. Mais je pose quand même cette question. Quelle est la première chose que la Bible dit de Jésus? Voilà, je me poserai cette question. Et je crois que beaucoup auraient répondu ce que la Bible dit de Jésus, ben, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. C'était le verset mis en exergue dans la confession de foi de l'ERF, Église réformée de France, en 1938. Donc qui était lu lors des assemblées générales, des synodes, des assemblées d'église. Et maintenant, on parle, c'est vrai, on parle un peu moins de ce verset, car on est passé de l'ERF, l'Église réformée de France, à l'EPUF, Église protestante unie de France. Enfin, l'organisation n'est pas la même, et la confession de foi qui réunit nos églises et ne reprend pas Jean 3,16. « Dieu a tellement aimé le monde ». Alors, on le répétait et on a compris que c'était peut-être le message central de la bonne nouvelle, l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde, en oubliant peut-être la majorité des textes dans la littérature joannique, donc Évangile et Épître, que ces textes disent qu'il ne faut pas aimer le monde et qu'il y a un certain antagonisme entre le monde et Dieu, et la volonté de Dieu. Et que d'ailleurs, le prince de ce monde, d'après la littérature joannique, ce n'est pas Dieu. Mais la convoitise, c'est l'argent, la jalousie, la violence. Et ce passage de Jean 3,16, au milieu de la littérature joannique, est là pour compenser tout ce qui est dit ailleurs et fait contraste. Deuxième réponse à la question que dit la Bible en premier de Jésus, eh bien, je crois que nos co-religionnaires protestants y répondraient facilement. Ben c'est dans Jean 10, « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Et d'ailleurs, une des premières représentations du Christ dans une des catacombes de Rome présente justement le Christ comme bon berger, un Christ pas selon le visage habituel que l'on lui a donné au Moyen-Âge. Mais là, un Christ imberbe, à Rome, comme un berger, un bon berger, avec un agneau sur les épaules. Vous avez certainement vu cette représentation. Alors, je vous propose de prendre ces deux passages, ces deux visions, en les replaçant dans leur contexte historique et théologique. D'abord, je suis, quand Jésus dit « je suis le bon berger », je suis. Dans nos manuscrits grecs, il y a bien ce verbe à la première personne, « je suis ». Mais comme Jésus l'a prononcé, c'était ou en hébreu ou en araméen. Donc deux possibilités, le verbe « être » n'y était pas, parce qu'en hébreu ou en araméen, on ne disait pas, on disait « bon berger », mais le verbe « être » n'y était pas. Ou s'il y était, c'était un peu en contraste et avec une insistance curieuse, et c'était donc cette formule, le verbe « être » en hébreu, « ayez »,« ayez », qui est donné « Yahvé », Dieu, qui signifie « je suis ». Yahvé, c'est Dieu, je suis le bon berger. Et alors que les Hébreux ne prononçaient pas le nom de Dieu, peut-être que Jésus l'a prononcé pour montrer sa proximité, lui. Donc, deuxième remarque, Jésus a dit donc « je suis ». Peut-être sans prononcer le verbe « être », mais s'il l'a prononcé, c'est en insistant pour désigner l'autre, Dieu, le bon berger. Et puis, deuxième remarque, Jésus choisit comme danger pour le troupeau, vous l'avez entendu, on connaît bien ce passage, le loup. Le danger pour le troupeau, c'est, dans cet épisode de l'Évangile, c'est le loup, ce qui est en réalité curieux pour l'époque. Car si on fait un peu de l'histoire, si on travaille les textes de l'époque, le vrai danger pour les bergers et les troupeaux, à l'époque, c'était le lion d'Asie, le lion d'Arabie. L'espèce était donc très, très dangereuse, importante dans toute cette région entre la Syrie et l'Égypte. Elle était encore nombreuse, cette espèce, en Palestine, à l'époque des croisés. Dans les textes des Francs qui étaient en croisade dans la région, ils parlent souvent de ce lion d'Asie qui disparaît plus tardivement entre 1600 et 1650. En Syrie, ils ont été observés au XIXe siècle. En Irak, en 1914, la dernière fois. En Iran, dans les monts Zagros, là, justement, là où les deux aviateurs américains ont été récemment récupérés, et bien dans cette même région montagneuse, près du golfe Persique, c'est les derniers lions d'Iran qui ont été observés en 1963. Et les derniers lions du Maghreb, du Maroc, ne sont plus au Maroc, les derniers sont au zoo de Montpellier. Et les derniers lions d'Asie sont en Inde, près de Bombay, dans une sorte de réserve, à l'état un peu sauvage, mais c'est une réserve qui est visitée, et ce sont vraiment certainement les derniers lions d'Asie. Alors, Jésus prend l'image d'un troupeau de brebis. Il parle d'un troupeau de brebis, Hatson en hébreu, qui a donné Essénien. Hatson, comme d'ailleurs les Juifs pieux dans le désert entre Jéricho et Bethléem, qui avaient des textes où ils présentaient leur secte, leur mouvement religieux, une sorte de monachisme juif, et ils se présentaient comme des brebis, habillés en blanc, ce qui est un peu salissant dans le désert, mais ils devaient faire beaucoup de travail de laverie, pour être comme des brebis, alors que les autres peuples étaient présentés comme des renards, des chiens, des chats, ou des taureaux. Eux, ils se présentaient comme les brebis du Seigneur. Et Jésus donc présente ce peuple aimé de Dieu comme donc des Hatson, des brebis. Et il désigne comme danger pas le lion, curieusement, le loup. le loup, allusion évidente à l'occupant romain. Donc il y a une allusion politique dans le discours de Jésus, polémique. Il prend quelques risques. Deuxième passage. Dieu a tellement aimé le monde, donc le don du Fils unique, afin que quiconque croit. Et là, la foi, c'est comme une réceptivité, c'est une foi qui est une vision. Ce passage fait allusion à l'épisode de l'Ancien Testament dans le Pentateuque, la Torah, le livre des Nombres, au chapitre 21, où Moïse fait dresser un serpent d'airain, donc ancêtre du caducée, dans cette représentation, au sommet d'un poteau. Et ceux qui regardaient à cet objet symbolique étaient guéris de leur morsure du serpent du désert, parce qu'ils avaient été mordus par des serpents mortels. Les archéologues ont trouvé plusieurs types de serpents. Alors, c'est la coiffe des Égyptiens qui tenait le bandeau. Il y avait un serpent en haut des yeux et de la tête. Mais on trouvait des serpents de bronze qui peuvent annoncer le caducée. On le trouve au deuxième millénaire avant Jésus-Christ, à Suse, en Iran, et à Gezer, en Israël. Symbole guérisseur, ambivalent, puisque le mal, parce qu'on avait peur de ces serpents mortels, le mal y est représenté, et en même temps ça signifie sa guérison, la guérison du mal. Tout ce que l'on trouve dans la mort de Jésus, le jour du sacrifice de la Pâque juive, une portée symbolique aussi, est représenté. La croix est un objet de malédiction. « Maudit est celui qui est pendu au bois », dit le livre du Deutéronome, chapitre 21, verset 22. Devient, cette croix, paradoxalement, objet de bénédiction. Donc c'est un message paradoxal. Et c'est ainsi qu'est le bon berger. Il donne sa vie pour ses brebis, ce qui est imprudent. On pourrait dire que c'est mal calculé, mais qui est spirituellement parlant. Donc premièrement, dans cette phrase, il y a la mention de Dieu. Il y a Dieu. Dieu a tellement aimé le monde. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'athée. Tout le monde avait sa religion, tout le monde croyait d'une façon ou d'une autre. Tout le monde croyait que derrière l'apparence des choses, derrière l'histoire, il y avait un autre monde, il y avait une autre dimension. Et tout le monde croyait au monde supérieur qui serait plus ou moins emboîté au-dessus du ciel ou de la nuit. Alors notre passage, lui, commence par Dieu. Alors que souvent le discours chrétien, dans le Nouveau Testament et puis après dans l'Église primitive, commence par Christ. Il me semble que la nouveauté, c'est le Christ. La révélation, c'est l'Église. Et en fait, je crois que Jésus, qui commence ici par Dieu, Jésus mettrait beaucoup plus l'accent sur Dieu s'il revenait aujourd'hui, dans notre monde qui est très sécularisé, avec beaucoup de gens qui se disent athées. Dieu a tellement aimé le monde. Un monde qui n'est pas aimable, puisque justement, tous les autres passages dans la littérature johannique disent qu'il ne faut pas aimer le monde, il y a un danger avec le monde qui est trompeur, qui nous entraîne vers le péché. Un monde qui n'est pas aimable, comme nous. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Il y a quelques années, on parlait beaucoup du bouddhisme comme possibilité de renouveau spirituel pour notre société, pour l'Occident. On disait que le bouddhisme donc, était intéressant, il y avait une spiritualité et qu'il était heureusement athée, ce que je ne crois pas. C'est ce qu'on disait du bouddhisme pour le vendre, entre guillemets, dans notre Occident. Le bouddhisme refuse effectivement la vision anthropomorphique de Dieu. Mais normalement, les chrétiens, on ne croit pas que Dieu est un Père Noël. Mais les bouddhistes donc, refusent la vision trop matérialisée, représentée avec la forme de Dieu, la forme humaine pour Dieu, mais pas l'esprit. Ou la vacuité subtile, disent les bouddhistes, qui entoure ou prolonge le réel, comme une enveloppe subtile, un fond ou une source. Donc, premièrement, et Jésus était dans cette perspective, parce qu'il y a eu d'autres religions qui étaient monothéistes autour de l'ancien Israël. En particulier, il y avait les Perses, les Zoroastriens, qui croyaient à Ahura Mazda, un dieu invisible qui ressemble plus au soleil qu'à un Père Noël, un dieu non anthropomorphique. Mais premièrement, on commence par Dieu, et là, Jésus dit « Dieu a un fils ». Alors, bien sûr, aujourd'hui, les Juifs... Les musulmans et les bouddhistes ne seraient pas d'accord en prenant comme ça de façon simpliste ce passage et diraient non, non, nous, ce n'est pas notre croyance. Le passage dit « Dieu a un fils. Il est fils de l'homme humain, fils de Dieu, divin, comme le marin est fils de la mer, le marcheur, fils du chemin. » Les monothéistes ont été choqués quand... Le symbolisme plus égyptien que chrétien s'est répandu par la suite dans l'histoire chrétienne, dans l'Empire romain, avec Isis Horus, qui influence la représentation de Marie, Jésus, et l'idée d'une sorte d'un Jésus qui serait fils de Dieu, mais un peu comme un demi-dieu grec. Dieu a un fils, n'affirme pas cela, c'est quelque chose de moins matériel, moins imagé. Mais c'est comme Abraham est fils de Dieu, comme Moïse est fils de Dieu, comme Noé est fils de Dieu, et le Messie qu'on attendait. Dieu a un fils, et c'est pour cela que l'on peut consoler le monde par Dieu, qui n'est pas responsable de ce qui arrive, mais qui n'est responsable que du bonheur, de l'alliance, de son fils, de la guérison, pas responsable de la totalité de ce qui arrive. S'il y a Dieu, c'est que le monde a un sens, et si Dieu a un fils, c'est que le sens de ce monde est dans l'amour. Dieu agit par amour, l'amour qui se trouve dans toutes les religions, mais au centre du christianisme de Jésus. Que reste-t-il ? Que reste-t-il à faire, à vivre, à voir, à croire, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jésus est comme le serpent d'airain dans le désert de nos vies. À l'époque de Moïse, qui le voit, quiconque le voit, est guéri. Un des grands théologiens protestants du XIXe siècle, Alexandre Vinet, a pu dire « Croire, en réalité, c'est voir ». Mais de façon subtile, pas voir de nos yeux, mais en esprit. Voir Dieu, le Fils de Dieu, l'amour de Dieu. Amen. Unissons-nous dans l'intercession. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Donne faim de toi à ceux qui ont du pain, car toi seul peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Donne l'humilité à ceux qui se croient forts, car toi seul es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent, et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur. Donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent, et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé, pour qu'ils te cherchent encore, car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Nous te prions pour les malades, les isolés, les prisonniers. Nous te prions pour les victimes de l'injustice des hommes et de toutes les catastrophes. Nous te prions pour nos villes, nos campagnes, nos églises, nos lieux de travail, de repos, d'amitié ou de solidarité. Nous te prions pour nos familles, nos enfants, les générations qui se lèvent. Et nous te disons merci de ce que tu nous exauces, puisque notre prière est déjà un exaucement par Jésus-Christ, notre Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Manifestez de la douceur envers tous, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu dans la prière ce dont vous avez besoin. Demandez-le lui avec un cœur reconnaissant. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, révélateur de Dieu et de l'amour de Dieu. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par le pasteur Michel Jasse, pasteur de l'Église protestante unie de France. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme.